Voilà, très heureux d'être avec vous. Ouais, prie pour moi, c'est bien. J'en ai besoin. Gloire à Dieu. Voilà, c'est une joie de revenir, d'être avec vous ce matin, de partager ce moment. Et je suis convaincu qu'encore le Seigneur veut nous amener plus loin. Hein? Alléluia. Voilà, ça fait du bien de revoir des visages qu'on connaît et de voir que vous êtes toujours là, fidèles, hein? Et surtout fidèles au Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, on va ouvrir la parole ce matin. Je voudrais partager avec vous quelque chose de simple, je ne vais pas être long, mais une réflexion qui m'a interpellé en... C'est pas moi, j'y suis pour rien. Voilà. Je te laisse me régler. Merci. Voilà, je disais, je voudrais partager avec vous quelque chose qui m'a interpellé dans ma lecture personnelle. Je pense que vous êtes comme moi, vous lisez la parole et des fois, il y a des choses qui vous interpellent, qui vous attrapent et puis vous réfléchissez. C'est de voir, on va lire un verset à l'introduction, mais je voudrais commencer par ça, c'est de voir dans la Bible le nombre d'histoires, le nombre de récits, le nombre de textes où il est question de sommeil. Alors, je vais tâcher de ne pas vous endormir ce matin, mais je voudrais vous parler du sommeil, le sommeil spirituel. Si je vois Marc, si je te vois t'endormir, ouais, je crie. Voilà. Mais j'étais frappé de voir le nombre d'histoires dans la Bible où il est question de ça. Bien sûr, on dit oui, c'est vrai, mais quand on prend le temps d'y réfléchir, on dit mais waouh. Alors, je vais vous en citer quelques-uns, peut-être pour nous rafraîchir la mémoire. Vous allez voir que ce n'est pas un ou deux textes, c'est plusieurs. Je pense à l'histoire de Samson avec Delila. Elle l'endormit sur ses genoux et on sait comment ça a terminé. On sait que pour Samson, ça a mal fini. Il s'est retrouvé... En train de tourner la meule dans la prison avec des chaînes et des reins. Il y aurait tout un message là. Hein. Je pense à Eutychus. J'en ai parlé mardi soir à la Seine. Eutychus qui, pendant le long discours de Paul, s'est endormi profondément. Alors j'espère que ça ne va pas vous arriver ce matin. Mais comme je disais, il est tombé au troisième étage. Du troisième étage, il n'est pas tombé du bon côté. Il est tombé du mauvais. Voyez. Je pense à l'histoire de Jonas en pleine tempête. Qui s'est endormi profondément. Et la Bible nous dit que même le pilote a dû venir le trouver pour lui dire « Mais pourquoi dors-tu » Je pense aussi aux disciples, à Gethsémané, qui étaient en train, dans un moment hyper important, qui étaient en train de dormir. Et Jésus va venir les voir, mais va leur dire « Vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. » Je pense aux vierges sages d'ailleurs. Toutes s'assoupirent, toutes. Je pense au prophète Élie qui s'est endormi sous le genêt. Vous connaissez l'histoire aussi. Voyez. Je pense à l'apôtre Paul qui va dire ces versets aux Romains. Il va dire « C'est l'heure de vous réveiller. Hein, c'est l'heure de vous réveiller car le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. » Je pense aussi à ces Thessaloniciens qu'il va dire hein, « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Voyez, ça revient, le sommeil, ça revient dans toute la parole. Dans le livre des Proverbes, vous avez aussi ce texte qu'on connaît quasiment par cœur, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Voyez ? Et puis, comme si ça ne suffisait pas, vous avez ce verset, on va le lire ensemble, Proverbe 20, verset 13. Vous avez remarqué que dans tous ces exemples que j'ai cités, chaque fois, le sommeil, ça a une connotation négative. Et chaque fois, les exemples sont négatifs. Chaque fois, il y a eu des conséquences derrière. C'est pour ça que c'est important d'en parler. Et ce verset, j'allais dire, il enfonce le clou. Et je voudrais peut-être le laisser comme un conseil pour nous dans cette année. On redémarre, on repart. Et c'est vraiment le conseil que je voudrais laisser sur notre cœur où Dieu nous dit, n'aime pas le sommeil comme quoi on peut aimer ça. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça, mais n'aime pas le sommeil. Bon, il y en a qui aiment bien leur lit, c'est vrai. Bon. Mais sur le plan spirituel, n'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre, ouvre les yeux, c'est-à-dire ne dors pas, tu seras rassasié de pain. Et peut-être ce matin, c'est pour cette nouvelle année, c'est le conseil que le Seigneur voudrait nous donner à tous, à commencer par moi. Cyril, n'aime pas le sommeil. Vous voyez ? N'aime pas le sommeil. Et vous avez noté que il est dit quand même de peur. Ça veut dire que c'est sérieux cette affaire. C'est pas là pour se dire « Ouais, bon, il y a plus grave que ça. » Non, non, non. De peur que tu ne deviennes pauvre. Et ce matin, je voudrais m'arrêter avec vous. Je ne vais pas être long, mais je voudrais m'arrêter avec vous sur ce que j'ai appelé trois caractéristiques du sommeil spirituel. Trois caractéristiques toutes simples. Et le but, c'est pas de nous enfoncer ce matin. Le but, c'est que quelque part, ça puisse nous interpeller afin que si peut-être on se retrouve dans une de ces trois caractéristiques, on puisse se dire « Seigneur, secours-moi. Secours-moi. Aide-moi. Je ne sais pas ce que me réserve cette année 2020. » Comme je disais, je le dis depuis le début de l'année à la Seine, peut-être le retour de Jésus. Franchement, ça m'irait très bien. Bon, c'est vrai, on se dit, on veut que d'autres soient sauvés, c'est vrai. Mais je me dis, peut-être ça nous réserve le retour du Seigneur. Et quelque part, je me dis, mais Seigneur, aide-nous. Et si peut-être on se retrouve, on se dit, mais tiens, ça me ressemble un peu. Le but, c'est de dire, Seigneur, ben, je veux me ressaisir. Afin de vivre pleinement ce que tu as pour moi dans cette année. Alors, première caractéristique, on la retrouve au travers de cette église que nous connaissons bien, c'est pour ça que je n'ai pas mis le texte affiché, l'église de Laodicée. On sait ce que la Bible dit, parce que tu dis « je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et que tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. » Peut-être quelqu'un me dira, mais Cyril, ouais, d'accord, mais dans cette histoire, il n'est pas question de sommeil. En tout cas, le mot ne s'y trouve pas, c'est vrai. Mais quand vous prenez la peine de regarder, vous vous rendez compte quand même que c'est une église qui était en plein sommeil spirituel. Et je ne vous apprendrai rien en vous disant que Laodicée, c'est un petit peu l'image de l'église des derniers temps. Donc on comprend quelque part que dans les derniers temps, le sommeil spirituel, ce n'est pas une invention de serviteur de Dieu, c'est une réalité. Vous voyez ? Et ce qui m'a toujours frappé, c'est que dans cette église, c'est là, c'est à eux, c'est à ces croyants que le Seigneur va dire « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et ça m'a toujours interpellé parce que c'est à des croyants que c'est dit. Souvent, nous, on s'en sert, les prédicateurs, et je l'ai fait, et c'est pas faux, on s'en sert dans les réunions dites d'évangélisation, mais c'est d'abord à des croyants que ça s'adresse, ça. Et on pourrait se dire, mais comment ça se fait? C'est une église et le Seigneur est dehors. Je me tiens à la porte et je frappe. C'est bizarre, ça. Le Seigneur devrait être à l'intérieur. Ce matin, je me dis, Seigneur, je veux pas que tu sois devant la porte, je veux que tu sois là, au milieu de nous. Vous voyez? En tout cas, à la Odyssée, on peut se dire, mais comment ça se fait que le Seigneur est dehors? Ben, comment ça se fait? C'est que le sommeil spirituel était là. Et ce qui me frappe, c'est que personne ne s'en était rendu compte. Peut-être dans cette église, ce n'est pas écrit, mais j'essaie de réfléchir un petit peu, et je me dis, il y avait peut-être un super programme, hein. Un bon programme, toutes les réunions qu'il fallait, programme de jeunesse, la chorale, ceci, cela, et c'est très bien. Mais j'allais dire, ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'était qu'ils étaient dans le sommeil spirituel. Seigneur n'était plus là, et ça n'était même pas rendu compte. Et je crois qu'on a là une première caractéristique du sommeil spirituel, c'est que souvent, la personne qui en est atteinte ne s'en rend même pas compte. Et ça m'interpelle. Celui qui est dans le sommeil spirituel, souvent, il ne s'en rend pas compte. Vous voyez ? Parfois même, les autres autour se rendent compte que ça ne va pas ou que ça ne va plus, mais la personne elle-même, elle ne le voit pas. En tout cas, la Odyssée, c'est clair. Hein ? Là aussi, je réfléchis, peut-être vous auriez visité l'église de la Odyssée, vous auriez été la voir, et vous auriez senti qu'il y a quelque chose là. Voyez. Mais en tout cas, eux, ça n'était pas rendu compte. Et souvent, c'est ça. Vous avez là une caractéristique du sommeil spirituel, c'est que celui qui en est atteint, celui qui est en plein dedans, il ne s'en rend pas compte. Et c'est pour ça, je voudrais insister parce que je crois que c'est important, c'est pour ça que la communion fraternelle, c'est important. C'est pour ça que la communion fraternelle, c'est important. Parce que, quelque part, alors bien sûr, la communion fraternelle, c'est quelque chose de pas évident. C'est pour ça que la Bible dit « persévérer dans l'amour fraternel ». Ce n'est pas évident parce que, d'abord, l'Église n'est pas parfaite, mais ça, on le savait, ce n'est pas un scoop. Les croyants ne sont pas parfaits. Le pasteur, eh oui, il n'est pas parfait, bon, sauf le vôtre. Mais, et donc, forcément... Et donc forcément que la communion fraternelle, c'est pas simple, c'est pas facile. On a tous des caractères différents, on a tous des sensibilités différentes, voyez. Mais quand même, la communion fraternelle, c'est bon quoi. Parce que dans la communion fraternelle, si je la vis réellement en étant là, ben, quelque part, je sais que mes frères et mes sœurs, parce qu'ils m'aiment, parce que ce sont mes frères et mes sœurs, s'ils se rendent compte que, tiens, un tel ou un tel, ça ne va pas. Ou on sent que, eh bien, ils viendront me le dire. Et si moi, je ne me rends plus compte ou je ne me rends pas compte que je suis en train de petit à petit de baisser, de m'endormir spirituellement parlant, le frère ou la sœur, il viendra me le dire parce qu'il m'aime. Alors, quand je dis « viendra me le dire », il ne va pas me tomber dessus. Mais il viendra avec amour me dire « qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Et c'est pour ça que la communion fraternelle, c'est important. C'est important. On ne peut pas vivre notre foi tout seul à la maison. On a besoin les uns des autres. On a besoin de l'Église. On a besoin de la communion fraternelle. Parce que si moi, je ne me rends pas compte que je suis en train petit à petit de glisser, les autres s'en rendront compte et ils me le diront. Et béni soit Dieu. Si mon frère ou ma soeur vient me dire « qu'est-ce qu'il y a ? Je sens que ça ne va pas. » Et peut-être j'aimerais nous encourager les uns les autres. Je voudrais peut-être je vais vous raconter un petit témoignage parce que moi ça m'a fait du bien, ça m'a parlé, ça m'a interpellé, ça m'a retourné, ça m'a encouragé aussi. Si peut-être mon frère, ma sœur, tu vois un chrétien dans l'église, tu sens que ça va pas. Dis pas oh je le connais pas. Dis pas c'est le pasteur qui s'en occupera. Mais peut-être toi va le voir. Peut-être passer lui un petit coup de téléphone. Peut-être même un simple petit SMS. Des fois, il ne faut pas grand-chose pour que quelqu'un se dise tiens, voyez. Et c'est important parce que souvent, celui qui est dans le sommeil spirituel, il ne s'en rend pas compte. Mais l'autre, les autres autour, ils sont là. On ne se surveille pas, on veille les uns sur les autres. Et ça, c'est important, vous voyez. Et ça, c'est important. Je vous disais peut-être un petit témoignage, mais pour vous montrer que c'est important, la communion fraternelle, c'est important d'être ensemble. Il y a 2 mois de ça, alors ça ne m'arrive pas tout le temps, je voudrais bien que ça m'arrive plus souvent d'ailleurs, mais ce n'était même pas dans l'église locale. J'ai amené mes ados et mes jeunes dans un rassemblement de jeunesse. C'était à Marignane, et puis bon, la journée s'est passée, c'était bien. Et à un moment donné, il y a eu un moment d'appel, les jeunes se sont approchés. Et puis, comme il y avait pas mal de jeunes devant, le pasteur qui prêchait dit, il y a des pasteurs dans l'église, venez nous aider à prier. Donc bon, moi en général, quand je vais comme ça, j'aime bien profiter et je reste à ma place. En général, je ne bouge pas, je fais le canard, je reste dans mon coin. Et puis bon, j'ai dit, bon allez, il y a quelqu'un qui vient me taper, il faut y aller. Et j'y suis allé, j'ai prié pour quelques jeunes, et puis je suis revenu à ma place. Et en revenant à ma place, je passe devant, alors je dirai les noms, hein, mais je passe devant un collègue. Et là, en passant devant le collègue, je ne peux pas vous expliquer, mais je suis saisi par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit montre quelque chose du collègue. Et en fait, il n'allait pas bien, mais pas bien du tout. Et vraiment, mais bon, vous passez là, vous dites, j'en fais quoi moi? Je fais quoi avec ça? Et c'était tellement fort, mais c'était, vous savez, vous avez l'impression que vous avez le cœur qui va sortir du... Et donc, je savais pas comment m'y prendre. Et puis, j'ai attendu la fin de la réunion. Et puis, la réunion passe. Et puis, ce collègue passe. Je l'attrape. Je dis, il faut que je te dise quelque chose. Et il me regarde. Et hop, on se retire dans un coin. Et je dis, écoute, voilà, ça m'arrive pas souvent. Mais voilà ce qui se passe. Voilà ce que le Seigneur m'a montré. Et je lui dis, voilà aussi ce qu'il m'a montré. Et voilà ce que le Seigneur m'a dit de te dire. Et je lui dis, au moment où je finis à peine de lui dire, il s'effondre en larmes. Il m'est tombé dans les bras. Il y a un autre collègue qui passe derrière, il me regarde. Moi, je le vois, j'étais tellement surpris. Mais tout ça pour dire quoi? On veille les uns sur les autres. Et c'est important. Et c'est important. Aimons la communion fraternelle. Des fois, ce n'est pas facile, c'est vrai. Des fois, on n'a pas tous la même façon de voir les choses. On a des caractères différents, c'est vrai. Mais c'est important, la communion fraternelle. Parce que si je ne vais pas bien, eh bien, peut-être un frère et une sœur viendra me le dire, viendra là, et peut-être sera une source de bénédiction pour moi. Parce que souvent, le problème, c'est que quand ça ne va pas, ou on ne dit rien, ou on ne se rend même plus compte que ça ne va pas. Et on a besoin les uns des autres. Deuxième caractéristique, c'est du sommeil spirituel. C'est la baisse de vigilance. Et là, je vais prendre cet exemple tout simple que nous connaissons tous. C'est celui qui s'endort au volant. Souvent, pour ne pas dire tout le temps, ça ne rend pas compte. Ça ne rend pas compte. Vous avez remarqué, quand vous êtes en train de conduire, alors il y a quand même des petits signes. Il y a des petits signes, on commence à ouvrir la fenêtre pour avoir un peu d'air. Ou alors souvent, enfin, en tout cas ça c'est moi, quand je sens que vous êtes comme ça, vous grattez les, vous faites ça, vous sentez que, vous voyez, et parce que imperceptiblement, le sommeil est en train de vous gagner. Ça fait un moment que vous conduisez, et imperceptiblement, vous voyez, le problème c'est qu'on sait que malheureusement, au moment où ça, le drame est derrière, hein. Et spirituellement parlant, c'est la même chose. Imperceptiblement, on est en train de baisser la garde, voyez. Imperceptiblement, on est en train de s'endormir. Alors comment ça se manifeste? Ben, ça se manifeste par parfois dans nos vies, par des petites choses qui reviennent, des petites choses qui étaient là. Peut-être avant de connaître le Seigneur, ou peut-être même au début, et puis bon, on a fait des progrès, on a avancé avec le Seigneur, et puis tout d'un coup, des petites choses reviennent, des petites manies, des petites choses qu'on excuse, qu'on tolère, et qui reprennent place. Vous voyez, tout ça, ça se fait imperceptiblement, lentement mais sûrement. Mais tout ça, c'est des caractéristiques du sommeil spirituel. C'est que petit à petit, comme celui qui conduit au volant, eh ben, petit à petit, il y a des choses qui viennent ou qui reviennent. Alors, on va en citer. Ça peut être la petite cigarette qu'on reprend. Une fois. C'est juste pour me calmer. Ça peut être... le petit film que je me permets de regarder juste 2 minutes. Ça revient. Oui. Ça peut être la vulgarité, la grossièreté. Moi, j'ai toujours eu du mal avec les croyants vulgaires, grossiers. Parce que je me dis justement, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et tout d'un coup, il y a des mots qui reviennent. Tu vois, oh non, mais ça m'a échappé. Ouais. Mais le problème, c'est que ça t'échappe de plus en plus souvent. Vous voyez, ça peut être une petite magouille, un petit mensonge. Vous voyez, toutes ces petites choses qui n'étaient plus là, et puis qui, au détour des situations, des aléas de la vie, des contraintes, des moments de pression, tout d'un coup, ça revient. Vous voyez. Alors on peut se dire, oh, c'est pas grave. Pas grave. Ben, c'est comme celui qui s'endort au volant. C'est tout imperceptiblement, tchac. Le problème, c'est que si on ne réagit pas très vite, si on ne réalise pas que là, on est peut-être en train, lentement mais sûrement, de tomber dans le sommeil spirituel, comme celui qui s'endort au volant, et ça risque d'être le drame, peut-être à un moment donné de notre vie, on va perdre le contrôle. On va se retrouver par terre. Et peut-être ce matin, moi je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais peut-être, Seigneur, vous devez te dire, n'aime pas le sommeil, attention. Toutes ces petites choses que peut-être tu négliges, hein, peut-être que tu dis, c'est pas grave. Oui, peut-être aujourd'hui c'est pas grave. Mais c'est comme celui qui s'endort au volant. Hein. Il y a une baisse de vigilance qui est là. Bien sûr, on a tous des progrès à faire. Bien sûr, on a encore un parcours à faire avec Dieu. Bien sûr, mais ne nous habituons pas à certaines petites choses qui, quelque part, font qu'à un moment donné ou un autre, il y aura une sortie de route. Et je voudrais que ce matin, si peut-être mon frère, ma soeur, ça te parle, c'est pas là pour t'accabler, c'est pas là pour te juger, mais c'est là pour que tu dises, Seigneur, aide-moi. C'est vrai, je réalise que là, c'est vrai, il y a des petites habitudes qui n'étaient plus là, qui... Ça reprend vie. Alors je ne dis pas que c'est facile, hein. Je dis pas, mais au moins qu'il y ait cette prise de conscience, pour qu'au moins on puisse prier pour ça, dire Seigneur, c'est vrai, je me remets à mal parler, je me remets à telle ou telle chose, il y a des choses qui reviennent, c'était plus comme ça, et puis Seigneur, secours-moi. Et là, vous stoppez l'hémorragie. Là, vous stoppez l'hémorragie. Là, quelque part, vous ne donnez plus accès au diable. Et c'est important. Vous voyez, il faut qu'il y ait cette prise de conscience. Seigneur, secours-moi. Secours-moi. Et c'est ça le but de ce matin. Ce n'est pas de nous enfoncer, mais c'est qu'on puisse le réaliser. Et puis, une troisième caractéristique, c'est quand ce qui devrait nous interpeller ne nous interpelle plus. Je crois que quand on marche avec le Seigneur, qu'on a une communion avec le Seigneur, alors on a tous des progrès à faire, et moi le premier. Il y a des choses quand même, ça nous interpelle. Oula, il y a un truc qui ne va pas. Là. Voyez mais quand ça ne nous interpelle plus, que vous êtes obligé de dire, mais tu trouves ça normal ça? Non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Là, il y a un souci. Et je vais prendre un exemple dans la parole qui m'a toujours frappé. Dans le livre de Daniel, on connaît l'histoire, c'est pour ça que je prends cette histoire-là. Rappelez, Daniel résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi. Alors, on connaît l'histoire. Hein. C'est super, il a pris position, c'est important d'être des hommes et des femmes de position. Et puis suite à cela, vous avez la conséquence. Daniel chapitre 1er, verset 11. Donc il est dit ceci, « Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Alors n'en tirons pas une conclusion qu'il faut qu'on devienne des véganes ou je ne sais pas trop quoi. Hein ? Moi j'avoue que s'il me fallait manger que des légumes, j'aurais un problème. Enfin bon, bref, ça c'est autre chose. Et puis Daniel dit, tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Voilà. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et il les éprouva pendant 10 jours. Et c'est ça qui m'a interpellé. Alors, on connaît l'histoire, hein, mais au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint. Alors commencez pas à rire avec l'histoire d'embonpoint parce que je vous vois arriver là. Et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient, écoutez bien, que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Il y a quand même un miracle de Dieu, hein, parce que vous mangez des légumes et vous avez de l'embonpoint. Bon, il y en a, ils n'ont pas besoin de manger des légumes pour avoir de l'embonpoint. Mais enfin bon, bref, ça c'est autre chose. Mais ils avaient plus d'embonpoint que tous les autres. Et là, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais les autres jeunes gens qui étaient avec Daniel et ses amis, qui ont été eux aussi élevés dans les voies du Dieu d'Israël, mais... Si l'intendant a remarqué qu'ils avaient plus d'embonpoint que tous les autres, mais les autres jeunes gens, ils ont dû le remarquer aussi. Ça aurait dû les... Comment ça se fait, ça? Nous, on mange les mets du roi, on mange comme des cochons. On mange tout ce qu'ils nous proposent. Et eux, ils mangent que des légumes. Et ils ont plus d'embonpoint que nous. Ça aurait dû les interpeller quand même, ça aurait dû les faire réfléchir. Bien sûr, c'est pas qu'une histoire de manger, vous le savez. Il y a une connotation spirituelle derrière, on le sait tous. Mais ça aurait dû les interpeller quand même, cette affaire. Ça aurait dû les amener à se dire, mais là, il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi eux, ils sont comme ça, et pourquoi nous, ben, quelque part, on n'est pas comme eux. Mais il semblerait que... Et puis l'histoire continue. Regardez, verset 17, ça continue. Et ça va se répéter. Il est dit, Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on le lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux. Regardez, et parmi tous ces jeunes gens, tous, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Mais ne me dites pas que les autres, ils n'ont pas vu. Les autres, déjà, ils ont plus d'embonpoint que nous. Déjà, il y a eu un truc là qui s'est passé. Mais maintenant, ces quatre gars-là, ils ont quelque chose de plus que nous. Mais ça aurait dû les interpeller. Ça aurait dû les amener à se dire, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas, les gars. Il faut qu'on se reprenne, il faut qu'on se ressaisisse. Eux, à un moment donné, ils ont fait un choix, ils n'ont pas voulu se souiller par les mets du roi. Peut-être qu'on a des choses à revoir dans nos cœurs et dans nos vies. Ça aurait dû les interpeller. Mais malheureusement, ça ne les a pas interpellés. Voyez ? Et là, vous avez une caractéristique du sommeil spirituel. Et là, j'aimerais nous dire, on peut tous, et moi le premier, on peut tous faire des erreurs. On peut tous se tromper. Quand je dis ça, je ne légitime pas le fait de faire n'importe quoi, mais vous comprenez, nous bronchons tous de plusieurs manières, c'est vrai. Mais c'est important que de savoir se remettre en question et de se dire, mais comment ça se fait? Quand je regarde un petit peu autour de moi, c'est comment ça se fait? Il n'y a rien de plus terrible qu'un croyant qui ne sait pas se remettre en question ou qui remet toujours en question les autres, mais jamais lui-même. Il n'y a rien de plus terrible que ça. Vous voyez? Ça devrait nous interpeller. Et vous avez là une caractéristique du sommeil spirituel. Et là, je prends l'exemple de ces jeunes gens qui ont grandi avec Daniel, peut-être qui les côtoyaient, peut-être, voyez, ils ont fait des tas de choses ensemble, mais je ne sais pas, ça aurait dû... Ils ont quelque chose que nous, on n'a pas. Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui auraient dû les interpeller ne les a pas interpellés. Ceux qui auraient dû leur parler ne leur a pas parlé. Voyez, je pense à d'autres exemples. Vous rappelez Élie le sacrificateur avec ses deux fils, Ophni et Phiné. Le reproche que Dieu va lui faire, ouais, on va l'afficher, 1 Samuel chapitre 3 verset 13. C'est Dieu qui révèle ces choses au jeune Samuel. Et concernant Élie, il va lui dire « Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lesquels ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. » C'est-à-dire que quelque part, il n'a eu aucune réaction. Ce qui aurait dû, à un moment donné, le faire réagir, l'interpeller, dire « Non, mais là, c'est plus possible. » Rien. Voyez ? Et Dieu va le reprendre quand même sévèrement. Voyez, le problème de Élie le sacrificateur, c'est qu'il était dans le sommeil spirituel le plus profond. Il avait le titre de sacrificateur, mais il n'avait plus que le nom. Voyez, le sommeil l'avait complètement gagné. Voyez, j'aurais pu vous parler des Corinthiens. Les Corinthiens, ils auraient dû à un moment donné réagir. Je ne l'ai pas donné, mais je vais vous le lire. À un moment donné, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 5, c'est un chapitre terrible, va dire aux Corinthiens, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Enfin, je ne sais pas, moi, quand vous lisez ça, vous dites, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc dans l'église, ça? Je m'étends... Et ce qui m'interpelle, c'est la suite. Paul dit, 1 Corinthiens 5, verset 2, et vous êtes enflé d'orgueil, écoutez bien, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Et ce qui m'interpelle, c'est ça. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Il est en train de leur dire, mais ça ne vous a pas fait réagir? Ça ne vous a pas interpellé, les Corinthiens, cette affaire-là, cette situation qui est là ben, ça montre que, quelque part, le sommeil spirituel les avait bien gagnés. Hein. Parce que sinon, ils auraient réagi. Sinon, ils auraient dit non, mais ils auraient été voir le frangin. Ils auraient dit non, frangin, là ça, c'est pas possible, ça. Là, il va falloir que tu te réveilles. Mais non, c'était là. Vous voyez, sommeil spirituel. Quand ce qui devrait nous interpeller ne nous interpelle plus. Et ma prière, c'est de dire, ben, Seigneur, que tu nous aides afin que je sois toujours en éveil pour que s'il y a des choses à rectifier dans mon cœur, dans ma vie, dans ma marche avec toi, à tous les niveaux, je dis, oula, ça va pas là. Il faut te ressaisir. Il faut, voyez, mais c'est important. C'est important parce qu'on est tous logés à la même enseigne, on a tous nos combats, on a tous nos luttes, on a tous nos fragilités, les uns dans un domaine et les autres dans un autre domaine. Mais ce qui fera la différence, c'est la réaction. Voyez, si quelque part il y a toujours à moi ce feu qui bouillonne pour le Seigneur, j'ai un moment de fragilité, j'ai un moment de faiblesse, je me plante, mais Seigneur, mais pardonne-moi. Mais Seigneur, secours-moi. Seigneur, le Saint-Esprit peut m'interpeller. Le Saint-Esprit peut parler à mon cœur. Mais si je suis... Je laisse courir, je laisse... C'est que le sommeil spirituel est là. N'aime pas le sommeil. N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre tes yeux et tu seras rassasié de pain. Et moi, je me dis, Seigneur, je veux être rassasié. Que Dieu nous rassasie. Alléluia. Alors je termine. Je réfléchissais à tout ça. Je me suis dit, si je fais un peu la synthèse de tout ça, là j'ai pensé à un verset qui voilà, c'est, je me suis dit, tiens, mais c'est ça, ouais. Ça m'a fait réfléchir, vous y réfléchirez à tête reposée à la maison, dans le livre du Cantique des Cantiques. Livre du Cantique des Cantiques, hein, Bernard. Eh oui. Il y a cette parole qui est là et moi, je veux me l'accaparer et la serrer sur mon cœur. Alors, vous connaissez plus ou moins le contexte, mais je prends juste ce qui m'intéresse. C'est la Sulamite qui donne cette parole et qui dit « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, etc. etc. » J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Et on a bien besoin, dans les temps qui courent, on a bien besoin les uns et les autres d'être en veille, hein. Plus que jamais. Je vais employer cette expression, d'avoir les radars bien ouverts, vous voyez, ça tourne. Parce que avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce qu'on entend aujourd'hui, tout ce qui est banalisé, minimisé, ringardisé, et le mal qui est appelé bien et le bien qui est appelé mal, on a bien besoin d'avoir le cœur, l'esprit, enfin, tout en veille, quoi. Et peut-être je vous lance cet appel ce matin, allumez vos radars. Alors, il ne s'agit pas de voir le mal partout, mais enfin, il ne s'agit pas de le voir nulle part non plus. Vous voyez, de dire, oh, faut qu'on ait nos radars spirituels bien allumés. Hein. J'étais endormi, mais vous réfléchirez à cette parole, mais mon cœur veillait. Et c'est important parce que la continuité, là, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Si on veut entendre la voix de Dieu, il faut qu'on soit en éveil. Hein. Il faut qu'on soit réveillé, parce que sinon Dieu parlera, on n'entendra rien. Et on en arrivera au même constat, je le disais hier aux jeunes, dans le livre du prophète Samuel, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Ce n'est pas que Dieu avait rien à dire, c'est qu'il n'y avait personne pour l'entendre. Et moi, je crois que Dieu parle, je crois que la voix de Dieu se fait entendre, elle se fait entendre de plus en plus. Le Saint-Esprit parle parce qu'on se rapproche de ce moment où Jésus va venir enlever son Église. Et croyez-moi, le Saint-Esprit parle. Hein. Mais il faut qu'on soit en éveil. Et qu'on puisse se dire, Seigneur, y a tout pour nous endormir. Il y a tout pour nous endormir sur le plan spirituel. Et si on ne veille pas, on veut avoir ce cœur en veille, notre esprit en veille, dire pour que je puisse entendre la voix du Seigneur, la voix du Saint-Esprit qui vient frapper. Si le Seigneur a quelque chose à me montrer, à me faire réaliser, à me dire, ben je veux l'entendre. Il faut qu'on soit en éveil. Et ce matin, je ne sais pas où on en est avec le Seigneur, les uns les autres. Je ne sais pas où tu en es avec le Seigneur. Mais j'aimerais quelque part qu'on puisse entendre ce conseil du Seigneur pour nous ce matin. En tout cas, pour moi, je le prends pour moi. Et peut-être nous rappeler ce matin, parce que ce ne sont que des rappels, n'aime pas le sommeil. Oui, il y a des côtés agréables. C'est... De peur que tu ne deviennes pauvre. Ouais. Alors que Dieu nous aide. Et là où nous en sommes ce matin, qu'on puisse dire, Seigneur, dans cette année, j'ai besoin de toi et de moi. Seigneur, afin que je sois toujours sur le qui-vive, que je sois toujours en veille, afin que je sois toujours vigilant, veillant, priant. Voyez, vigilance, vigilance. Parce que y a tellement de, on voit tellement aujourd'hui de bien-aimés qui lâchent la main du Seigneur. On voit tellement de choses. Et quelque part, ça arrive pas qu'aux autres. Ça arrive pas qu'aux autres. Et quand je vous dis ça à vous, je me le dis à moi. Quand on a des nouvelles parfois de l'un, de l'autre, des choses qui se passent, des fois on dit, mais quand on apprend qu'un croyant a lâché la main, vous dites, lui ? Elle ? Non, t'es bouillante, t'es fervente. T'es... Eh oui, mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Eh ouais. Que Dieu nous aide. En tout cas, mon frère, ma soeur, n'aime pas le sommeil. N'aime pas le sommeil de peur que tu ne viennes pauvre. Ouvre les yeux et Seigneur, on va avoir les yeux ouverts afin d'être rassasié de pain. Alléluia. Et je voudrais que ça puisse nous encourager ce matin. C'est pas que ça nous accable. Et si peut-être un de ces trois caractéristiques toutes simples, peut-être mon frère, ma soeur t'a parlé, ben, le but c'est de dire, ben, Seigneur, secours-moi. Aide-moi. Je veux pas laisser courir. Mais je veux, Seigneur, que tu touches mon cœur et que tu m'aides. Alléluia. On va prier le Seigneur. Je m'arrête là. Et peut-être simplement, voilà, simplement, comme ça a été fait hier à la jeunesse, mais si peut-être, je vais prier, mais si peut-être quelque part, peut-être mon frère, ma soeur, tu as besoin de la prière, ben simplement, je ne vais pas te demander de venir devant, mais là où tu es, à ta place, lève-toi et on va prier. C'est entre toi et Dieu après. C'est entre toi et Dieu. Voilà, si peut-être, je ne sais pas, le Seigneur t'a interpellé sur un point, sur un autre, et tu dis, mais Seigneur, là, je réalise qu'effectivement, j'ai besoin peut-être de me ressaisir, j'ai besoin que tu m'aides. Ben, alors Seigneur, je me lève parce que je veux te dire que j'ai besoin de toi. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, si tu as besoin, lève-toi. Je ne vais pas insister, moi j'aime pas insister. Il n'y a pas de honte, on est entre nous, on est dans la famille de Dieu. Et c'est pas une honte que de dire, ben, moi j'ai besoin, ouais. Moi je réalise que Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. Alléluia. Hein, et le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va te secourir ce matin. Le Seigneur va te renouveler. Va te bénir. Alléluia. Jésus, à toi la gloire, Seigneur. Seigneur, toi qui es tout puissant. Toi qui es le Seigneur, le Père céleste, le bon berger des brebis, Seigneur. Toi qui veilles sur tes brebis, Seigneur. Je te demande en toute ta grâce sur tous ces bien-aimés qui sont debout ce matin. Tu nous rappelles ces choses simples, tu les remets devant nos yeux. Seigneur, je te demande vraiment de bénir mon frère, de bénir ma sœur. Et Seigneur, je te demande de les encourager, de les fortifier, Seigneur, pour que vraiment jusqu'à ce que tu reviennes, nous soyons en éveil, Seigneur. Soyons en éveil, Seigneur, que Seigneur, nous, je ne veux pas être un Élie, le sacrificateur. Je ne veux pas, Seigneur, laisser passer des choses que je ne devrais pas, Seigneur. Alors aide-moi, aide-nous, Seigneur. Je te prie pour mes frères et sœurs qui sont debout, pour que tu les secours, pour que tu les aides, Seigneur. Merci parce que tu n'es pas là pour enfoncer, au contraire. Tu es là pour encourager, fortifier, parce que tu reviens bientôt. Alors à toi la gloire, Seigneur. Et finalement, Seigneur, on a tous besoin de toi, moi le premier. Alors viens, Seigneur, viens nous visiter, viens nous renouveler par le Saint-Esprit, afin que le jour où tu reviennes, Seigneur, nous soyons prêts, Seigneur, soyons là devant toi, Seigneur, debout. Alors, Seigneur, à toi la gloire, bénis mes frères et sœurs, renouvelle-les. Et là, peut-être où il y a fragilité, là, peut-être où il y a faiblesse, Seigneur, tu secours, tu pallies, Seigneur, tu interviens, tu redonnes des forces nouvelles. Seigneur, à toi la gloire ce matin, pour ta bienveillance, ta fidélité, pour les rappels que tu remets devant nos yeux, afin qu'on puisse aller plus loin avec toi. À toi la gloire, Seigneur, je te bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.